Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Le château baroque de Ploskovice, à 60 km au nord de Prague, surnommé le petit Versailles de la Bohème, réputé pour ses jardins à la française, son système ingénieux pour alimenter les fontaines, sa grotte artificielle au sous-sol, et pour avoir été, après la création de la Tchécoslovaquie, en 1918, la résidence estivale des chefs de la diplomatie, est le but de ce nouveau guide touristique de Radio Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le château de Ploskovice se trouve à mi-chemin entre les villes de Terezín et Litoměřice dans la région de la Bohême du Nord. Les origines de l'une des plus belles constructions baroques du pays remontent au XIIIe siècle. La princesse Anne-Marie de Toscane, épouse du dernier Médicis, le grand-duc Jean Gaston, l'a fait construire dans les années 1720-1725. Son bâtisseur n'est autre que le célèbre architecte pragois baroque Kilian Ignaz Dientzenhofer, raconte notre guide Jana Zemandlova. Anne-Marie Françoise de Toscane a fait construire ce château inspiré de Versailles pour son plaisir. C'est elle-même qui veillait au bon déroulement des travaux, qui payait les ouvriers pour brûler tout de suite après les factures, afin que personne n'apprenne le coût de la construction. On dit que c'était plus d'un million de pièces de monnaie en or. L'empereur Ferdinand Ier de Habsbourg, le dernier roi de Bohême, avoir été couronné à Prague, surnommé affectueusement Ferdinand le Bon, est un autre propriétaire célèbre du château de Ploskovice.
Ten se v roce 1848 vzdal trůnu.
En 1848, il abdique au profit de son neveu, se retire de Vienne à Prague et choisit pour résidence d'été le château de Ploskovice. Avant son arrivée, l'édifice est élargi et remanié sous la direction de l'architecte pagois Jan Bielski. Le château, qui n'avait à l'origine qu'un étage, est surélevé d'un autre étage et on lui ajoute deux bâtiments d'administration. Les travaux de reconstruction sont achevés au printemps 1854. Ferdinand meurt en 1785 à Prague, laissant sa fortune, y compris Ploskovice, à son successeur François-Joseph Ier. Mais c'est la petite-fille de ce dernier, la princesse Windischgrätz, qui s'installe avec ses quatre enfants à Ploskovice. En 1818, la République tchécoslovaque indépendante de l'Autriche-Hongrie est proclamée et la nouvelle direction de l'État décide de faire de Ploskovice la résidence d'été du ministre des Affaires étrangères, observe Jana Zemandlová. C'est notamment Edvard Beneš qui aimait séjourner à Ploskovice. Pendant l'occupation allemande de la Bohème, l'une des écoles d'élite d'éducation politique du Troisième Reich, le Napola, y avait son siège. Depuis 1952, le château et le parc de Ploskovice sont gérés par l'administration du patrimoine qui l'a ouvert en 1962 au public. En 2002, le château de Ploskovice a été classé monument culturel national. les plus de 26 000 visiteurs qui s'y rendent chaque année admirent les intérieurs confortables équipés d'éléments de style rococo classique et deuxième rococo et décorés de peintures de Josef Navratil et de stucs exécutés par Václav Levy. Lorsqu'ils entrent dans le hall principal, une vue du jardin à la française s'ouvre sous leurs yeux, tandis que sous leurs pieds se trouve une grotte artificielle avec un système d'alimentation en eau ingénieux, dit Josef Jehak, de la société Speleo, qui a mené des travaux de recherche et qui a rénové les galeries souterraines.
En regardant les fresques qui ornent le château, on s'aperçoit qu'il est étroitement lié à l'eau qui fait aussi toute la beauté du lieu et que, dès le début, on prêtait beaucoup d'attention à une bonne gestion des eaux. L'eau était acheminée selon le principe gravitaire depuis la colline en face par un système ingénieux en cascade. Elle alimentait les différentes fontaines, les jets d'eau et autres ouvrages d'eau sculptée. L'eau constituait la base de toutes les décorations.
La grotte artificielle taillée dans les rochers naturels au sous-sol du château a été conçue de façon à produire l'illusion d'une grotte naturelle. À cette fin, elle est agrémentée de pierres spongieuses, de diverses sortes de coquillages, de pétrifications et de stalactites auxquelles sont associés des jeux d'eau. L'accent est mis justement sur la présence de l'eau. Dans le passé, chacune des fontaines était alimentée en eau sans interruption. La particularité de Ploskovice était notamment de pouvoir faire fonctionner ces fontaines en continu par la seule déclivité des galeries. Avec le temps, les galeries sont devenues défectueuses. Aujourd'hui, le système entièrement restauré n'est rempli d'eau qu'en pleine saison touristique. Les effets sonores produits par le passage de l'eau sont parfois bien mystérieux, surtout au moment où elle s'égoutte par les gargouilles comme celle-ci sculptée en forme de poisson, observe Josef Jehak.
L'orifice d'acheminement de l'eau se trouve derrière cette paroi. Lors de son passage par la galerie, on entend le gazouillis de l'eau sur les pierres et l'écho du bruissement dans les gargouilles. En plus de cela, l'eau dans cette grotte a encore un autre effet important. Les gouttes d'eau condensées sur les murs disparaissent au bout de quelques minutes après que le système est rempli d'eau froide, car cette eau accélère la circulation de l'air et absorbe l'humidité de l'air. Nous n'admirons jamais assez nos ancêtres qui savaient profiter des lois naturelles, même s'ils ne disposaient que d'une technique relativement primitive. Ils ont toute notre admiration pour leur travail avec l'eau et pour leur art de vivre en harmonie avec la nature.
Avant de quitter le château de Ploskovice, nous prenons un café sur la terrasse et passons un moment dans le jardin où les paons se promènent en toute liberté autour de nous. Depuis quelque temps, Ploskovice est indiqué dans le guide touristique parmi les balades culturelles entre Prague et Dresde, balades qui se font en bateau avec des escales dans la cité renaissance de Litoměřice, nouvellement aussi à Terezín, puis à Ploskovice, avant que le trajet ne nous mène encore dans le parc national de la Suisse tchèque, par Pravčická brána, la plus grande arche naturelle d'Europe. Mais ce sera l'objet de notre prochaine rencontre.